Cet épisode est réalisé en collaboration avec la destination Aubrac, une pause singulière et inspirante où tout nous reconnecte à l'essentiel et à la nature. Vous écoutez Bobine, des tronches de vie comme nulle part ailleurs, une série audio qui met en lumière les savoir-faire de nos régions. Épisode 23, la pause Aubrac. Entre ces vastes plateaux sauvages, ces villages pittoresques et ces traditions préservées, l'Aubrac est une région empreinte d'authenticité. À cheval entre l'Aveyron, le Cantal et la Lozère, cette destination est le théâtre de rencontres exceptionnelles. Artisans, paysans, chefs cuisiniers ou encore guides, ces femmes et ces hommes font perdurer le caractère singulier de l'Aubrac. Embarquez pour un voyage sonore au plus près de celles et ceux qui font battre le cœur de ce territoire, où la nature, le patrimoine et les savoir-faire s'entremêlent pour créer une expérience inoubliable. Notre vadrouille débute à Saint-Côme-d'Olt, classé plus beau village de France. C'est dans cet environnement privilégié, au pied de l'Aubrac, que le Landais Frédéric Salé a installé son atelier. Cet artisan chausseur-bottier fabrique entièrement à la main des chaussures qui allient confort et longévité, idéales pour vos balades en ville ou en pleine nature.
Quand j'ai décidé de faire ce métier, ça a été très vite. Un jour, j'étais chez un cordonnier avec ma maman. J'ai dit « Ah, ça me plairait de faire ça ». Et puis, on a trouvé une école assez rapidement. Et j'ai commencé comme ça, à 14 ans, à faire des études dans la chaussure. Tout le cursus pour vraiment apprendre à fabriquer la chaussure de A à Z. J'ai créé la gamme de modèles, dessiné les plans et jusqu'à la fabrication et la vente des chaussures. On a la chance d'avoir beaucoup d'élevage ici, avec les vaches d'Aubrac, on est sur les plateaux de l'Aubrac là, et on a une tannerie à 30 km de chez nous qui fabrique des cuirs magnifiques. Il y a aussi entreprise de PV comme nous, hein, nous on est entreprise du patrimoine vivant. Je vais directement chercher les cuirs là-bas à la tannerie, c'est des cuirs de premier choix, des cuirs pleines fleurs de veaux, de vaches. Voilà, on a vraiment des cuirs de qualité, donc la base de la fabrication, c'est surtout ça, la qualité du cuir. Et ensuite, nous, on va fabriquer derrière avec des fabrications cousues, réparables, des chaussures qui sont durables. On va pouvoir changer les semelles, on peut tout réparer en fait. Alors moi, quand j'ai créé la gamme de modèles, c'était vraiment l'idée de créer les chaussures polyvalentes pour vivre ici sur la région. Hein. J'ai fait au départ les chaussures pour moi, quoi, hein, on va dire, hein, pour aller se balader à la fois faire mon marché à Saint-Côme le dimanche matin, et puis en même temps l'après-midi aller me balader sur l'Aubrac avec sur les petites pistes, aller voir les lacs, aller voir voilà. Donc c'était allier vraiment la chaussure assez simple, assez basique, les modèles classiques de la chaussure facile à porter, quoi. J'ai des gens qui viennent me voir juste pour me dire « Ah, t'as vu, j'ai mis tes chaussures aujourd'hui et on boit un café. » Et donc ça, c'est vraiment un lien fort que j'ai réussi à créer avec l'atelier ouvert, avec les visites dans l'atelier. Quand j'ai créé l'entreprise, je voulais fabriquer des chaussures et revenir un peu à la source. Hein. J'ai fait beaucoup de travail sur la fabrication de la chaussure, mais plutôt dans les plans, dans le côté un peu industriel, des choses comme ça. Je voulais revenir à la base, à l'artisanat, travailler avec les mains. Donc ça, je l'ai toujours. Je me régale, je me fais plaisir à fabriquer mes chaussures à la main et avec mes employés, c'est ce qu'on arrive à faire. Mais on a aussi maintenant, là, avec notre atelier comme ça qui est ouvert, qu'on peut visiter vraiment ce lien-là avec les gens qui viennent nous voir. Et ça, c'est très sympa. Ouais.
Nous prenons un peu de hauteur pour rejoindre le domaine viticole de Méjana Serre. Depuis plus de 40 ans, Véronique et Frédéric entretiennent ce petit coin de paradis situé sur les contreforts de l'Aubrac.
Moi, je suis fils d'arboriculteur. Mon père était originaire de Rodez et il avait un verger dans le Loiret. Donc, moi, j'ai une formation arboricole à l'origine. Hein. Je n'ai pas voulu travailler avec mon père. Hein. Donc, je suis revenu sur les origines de la famille, un petit peu, dans l'Aveyron. Et pour revenir ici, j'ai choisi un hors-sol qui était l'apiculture à l'époque. Donc, j'ai eu jusqu'à 200-300 ruches que je transhumais sur le colza, l'acacia, la bruyère. Mais en tant que fils d'arboriculteur, j'aimais bien la culture végétale. Donc on a eu une première fermette qu'on a entièrement restaurée. À proximité de cette fermette, il y avait ce grand bâtiment qui était en mauvais état, qui était en ruine. On a décidé de l'acquérir avec ma compagne et de planter de la vigne. La viticulture, c'était un créneau possible dans la région. À l'époque, il y avait deux créneaux qui pouvaient être intéressants dans l'agriculture, sur la vallée d'Entrailles, où on travaille dans des conditions difficiles, sur des pentes assez abruptes et tout. Et c'était l'élevage de chèvres, mais sans que ce soit un élevage marginal. Et il y avait une grosse demande hein, au niveau de la commercialisation et les terrains s'y prêtaient, ou la viticulture. C'est vrai que c'est des conditions assez difficiles de travail. Hein. On travaille sur des pentes importantes, on travaille tracteur à chenille, on mécanise très peu. Pour l'instant, c'est une vente très locale, mais qui mériterait de partir sur l'extérieur. Voilà. On a des vins qui se rapprochent pas mal des vins du Val-de-Loire. Hein. C'est des vins de coteaux qui sont pas mal sur le fruit, qui sont des vins qui n'ont pas des degrés trop forts. Les vins blancs, c'est un chenin sur terre granitique. Alors que d'habitude, le chenin, il est souvent élevé sur une terre calcaire, hein, ce qui lui donne une originalité. C'est notre point fort, on a un vin blanc assez original, hein, avec une belle minéralité, des belles acidités. C'est une grande biodiversité ici. Hein. On est plein côte au sud. Autrefois, c'était les vignes, les vergers sur le sud et les châtaignes au nord. Hein. Alors, par rapport à l'Aubrac, ben, on est sur les contreforts de l'Aubrac, hein, jusqu'aux Lottes. On a d'ailleurs les biches et les cerfs de l'Aubrac qui descendent ici depuis quelques années. C'est signe qu'on est encore dans l'Aubrac. Avec mon épouse, on fait de la viticulture. C'est le plaisir de produire, la complexité, le travail de la vinification et puis la fierté de commercialiser son vin. Et puis de faire vivre ce lieu qui est magnifique. Quoi. Un flanc de coteau... C'est beau, quoi, ici, s'il te plaît.
Avant d'entrer dans le cœur de l'Aubrac, nous faisons une étape gourmande à la coopérative fromagère de Thérondelle. Fondée en 1946, la coopérative produit du Cantal AOP au lait cru, du Thérondelle, fromage éponyme du village, mais aussi le fameux Aligo. Fabien nous accueille.
La coopérative de Thérondelle est sur des gestes et des savoir-faire ancestraux où la tradition est perpétuée malgré la modernisation de l'atelier. Donc aujourd'hui, c'est une coopérative où travaillent 10 salariés, donc une collecte tous les jours, donc de lait cru, avec lequel du coup on va fabriquer donc du Cantal, avec un affinage qui va passer du jeune à l'entre-deux et du vieux. On fait le Thérondelle, donc un petit fromage de 2,5 kg, une tourmette à texture plus fruitée et plus onctueuse, éponyme du nom du village. Ensuite, du coup, on fait beaucoup de tomes pour faire notre aligot, donc l'aligot de Thérondelle. La coopérative, du coup, est vraiment située au milieu de toutes les fermes qu'on collecte. Donc, on démarre à 700 mètres d'altitude, donc à Véron, et la plus haute, donc, on déborde sur le Cantal à 1200 d'altitude. On est quand même sur un aspect industriel, mais quand même artisanal. Déjà, la base, l'amont, un lait vraiment travaillé, une politique lait cru, donc, où des producteurs sont sous des cahiers des charges assez stricts, où c'est 100% pâture, du coup, l'été, et 100% foin l'hiver, en silage et en ruban interdit pour vraiment garantir un lait cru de base vraiment fromageable. Alors sur le Cantal jeune, donc là vraiment le début de l'affinage, donc c'est un mois où vous allez vraiment avoir des saveurs lactées, florales, où cette catégorie est vraiment appréciée aujourd'hui sur l'aspect culinaire, cuisine, qui se marie bien avec avec les plats. Ensuite, donc, vous allez passer sur l'entre-deux. Donc, nous, vraiment, l'affinage phare pour notre Cantal au lait cru, c'est vraiment l'affinage 5 mois, donc 150 jours, où là, du coup, on a vraiment des saveurs, de l'arôme qui en sort. Nous, on fait un peu de Cantal vieux. Donc, le Cantal vieux, aujourd'hui, il a minimum 8 mois, où là, ça sera un fromage avec des saveurs plus épicées, plus affinées, mais sans être piquant, acide, où le sel, vraiment, va faire son rôle d'affinage à la fin. Mon travail, déjà, c'est une passion avant tout. Déjà, passer sur les fermes, parce qu'on a de très belles fermes, dans un cadre quand même idyllique. C'est vrai que ce soit les monts du Cantal ou les monts Aubrac, c'est vraiment un environnement où on se plaît toute la saison, tant au niveau été qu'hiver. Chaque saison a vraiment son cadre. Après, sur le travail en lui-même, c'est vrai qu'aujourd'hui, à Thérondelle, on a la chance de toucher la matière. Du début du lait jusqu'à la fin en cave, et de voir évoluer le produit. Quoi. C'est vrai que sur le Cantal ou le Thérondelle, on a des métamorphoses assez impressionnantes et qui sont spectaculaires. Quoi.
Il y a le Cantal, l'Aligo bien sûr, mais aussi le Laïeul, un fromage AOP de caractère, produit en Aubrac. Nous avons rendez-vous avec Sophie, une éleveuse passionnée qui accueille et héberge les visiteurs de passage et partage avec enthousiasme son savoir-faire et les délices gastronomiques de la région.
Quand j'étais jeune, en fait, je venais travailler sur l'Aubrac. Donc j'étais à l'école, j'ai fait mes études à Marvejols, à l'école agricole à Marvejols. Et tous les étés, je venais travailler sur l'Aubrac pour gagner un petit peu d'argent. Donc j'ai travaillé dans les bureaux et du coup, je me suis mis à aimer le tourisme. J'ai rencontré mon compagnon, Baptiste, et je me suis installée dans l'agriculture avec lui. Voilà. Et on avait des vaches au brac, on avait 90 vaches au brac. Et bon, c'était difficile de rester tous les deux sur la ferme. Donc, de ce fait, j'ai réfléchi, j'ai rencontré des personnes en travaillant qui m'ont parlé de la coopérative laitière à l'Aïole. Je savais traire et j'ai dit, c'est quand même, ça serait bien que je puisse monter un atelier lait à Saint-Ursis pour traire pour l'Aïole. Donc, voilà, on s'est lancé. Donc, on a créé le bâtiment laitier en 2018. Et donc, j'avais un projet qui me tenait à cœur, c'était l'agritourisme. Donc, je ne sais pas, peut-être 2 ans après, on a acheté la maison où se trouve le Bessou de l'Aubrac, là où on a fait nos chambres d'hôtes. Donc, on a 4 chambres, donc 10 couchages au total. Et ensuite, on a repris un bureau. Donc, le bureau, c'est en fait un gîte, 15 couchages. Et là, c'était donc un bureau qui appartenait à un oncle de mon mari Baptiste, qui était sur Paris. Et on a décidé de le mettre en gîte et d'en faire une location, quoi. Nous, on traite les vaches pour faire l'aligot, la truffade, le laïol. Notre fromage est laïol et on fait aussi le buronnier et les cires. Donc voilà, on a essayé de faire 3 gammes de fromage. Donc le laïol, il y a le grand aubrac qui est affiné 9 mois et le sélection qui est affiné 6 mois. Après, les cires, c'est un fromage frais. Et le buronnier, c'est un fromage à pâte grise qui peut ressembler un peu au sénectaire. Voilà, c'était pour en avoir 3 différents. Il faut se lever le matin à 7h tous les jours, 365 jours par an. Il y a la traite, il y a les petits déjeuners à la chambre d'hôte. Ensuite, il y a le ménage des chambres. Et après, les arrivées à 16h l'après-midi. Après, le soir, le but, c'était de faire goûter les produits de la ferme. Donc le soir, on fait la restauration pour toutes les personnes qui sont sur place. Et on ouvre aussi la table à ceux qui pourraient être à Saint-Ursis et qui ne savent pas où manger des fois parce que c'est compliqué chez nous, tout n'est pas ouvert. Donc du coup, ils viennent manger chez nous, quoi. L'Aubrac, c'est-à-dire qu'il y a du monde, mais c'est tellement un plateau vaste. Toutes les personnes que je rencontre me disent « c'est chouette, par exemple, cet après-midi, on s'est promené, mais finalement, on a rencontré 2 personnes, alors qu'il y a du monde partout. Finalement, on a rencontré que 2 personnes. » C'est tellement vaste que même qu'il y ait du monde, les gens ne vont pas forcément se rencontrer en marchant, quand on veut être tranquille, se promener une journée, et puis beaucoup de choses à visiter, et puis revenir aux valeurs. Voilà, visiter les fermes. Avant, je veux dire, dans les années 80, il y aurait moins de monde qui serait venu visiter la ferme. Moi, des fois, quand je fais des visites de ferme, j'ai jusqu'à 50, 60 personnes. Les gens ont envie de revenir aussi à des choses authentiques, quoi. La ferme, pourquoi le lait vient là, qu'est-ce que fait ce lait, voilà.
Nous passons par Chaudzeg, un village célèbre pour ses eaux thermales parmi les plus chaudes d'Europe. Quentin, accompagnateur en montagne, est tombé sous le charme de ce village niché au milieu de paysages, à couper le souffle.
Quand j'ai voulu découvrir la montagne par mes propres moyens, mes parents ne partaient pas en montagne, je me suis dit que le Cantal était une chouette destination. Donc je suis d'abord allé dans les monts du Cantal, et j'ai découvert le Cantal sous son aspect hivernal, et ce pendant plusieurs années. De fil en aiguille, par plusieurs expériences, qu'elles soient professionnelles ou liées au sentimental, liées à des projets personnels aussi, comme la musique, l'écriture, ou tout simplement le travail en extérieur, et bien ça m'a amené à vouloir faire le métier d'accompagnateur, de guide, on pourrait dire, mais le terme exact, c'est accompagnateur. Et donc, comme je venais souvent dans le Cantal, quand il a fallu décider d'un choix pour s'installer, je suis venu par ici, ma compagne ayant été mutée là, à Chaudzeg même, et bien ça m'a permis de venir découvrir ce territoire qu'à la base, je ne fréquentais pas du tout. Il y a encore un peu plus d'un an. Et donc, je passe quasiment tout mon temps maintenant à traquer toutes les beautés à travers tous les chemins. Ouais. L'Aubrac, pour moi, c'est une beauté subtile. On ne va pas tomber sur quelque chose qui, d'un seul coup, va nous exploser à la figure. Il va falloir qu'on soit un petit peu malin, qu'on aille chercher en dehors des sentiers battus. Ça nous remet dans des émotions on peut dire basique, mais hyper essentiel à la vie, qui est de s'émouvoir autour d'une rivière qui ruisselle, d'une source qui sort un petit peu au milieu de nulle part, de quelques vaches qui paissent dans un champ. Et surtout, ce qui fait la particularité de ce territoire, c'est qu'on voit au loin. Et je pense que ça, pour le moral, c'est très très bon quand on marche. On n'est pas dans un grand effort physique, souvent. On peut, hein, y a des endroits sur l'Aubrac où on peut vraiment se la donner, hein, physiquement, bien sûr. Mais dans la majorité des cas, on va plutôt chercher une marche presque méditative, quoi. Quelque chose où on sent plus qu'on est en mouvement. Et en même temps, on a une grande vue à 360 qui est propice à la rêverie. Chaudzeg, c'est un village qui est très intriguant. Bon, déjà, les gens vont le connaître pour la plupart du temps pour cette fameuse source du Par à 82 degrés, dont on dit qu'elle est la plus chaude d'Europe. Donc c'est une grande, grande curiosité. Après, Chaudzeg s'inscrit dans un territoire qu'on appelle le Caldagues. Et ce canton même dans le Cantal, cette pointe sud-est du Cantal, vraiment une variété de paysages extraordinaires, puisqu'on est en même temps sur l'Aubrac et en même temps on a les gorges de la Truyère, les gorges du Besse qui sont pas loin, donc des paysages qui n'ont rien à voir avec le grand plateau emblématique. Et le village même de Chaudzeg est riche évidemment d'énormément de commerces, de petites ruelles où il fait plaisir à se balader, d'activités en tout genre, donc on pense évidemment à la randonnée, mais aussi à des parcours acrobranches, tyroliennes, via ferrata, canyoning. Tout est orchestré à Chaudzeg pour bien vivre comme une petite ville, sauf qu'on est à l'échelle d'un village, avec tout ce que cela comporte, donc à savoir des bons produits évidemment qui viennent de l'Aubrac, un accueil qui est toujours très bon, une conversation qui s'engage assez facilement avec les locaux. Donc j'ai envie de dire, qui a envie d'étancher sa soif de découverte, trouvera à Chaudzeg de quoi se satisfaire largement. Il y a 32 sources d'eau chaude dans ce petit village, la majorité sont privées, donc les maisons sont construites dessus. Pourquoi ça sort à Chaudzeg? Comment ça sort à Chaudzeg? Quand on sait que souvent les gens confondent l'origine de l'eau chaude avec le volcanisme, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on parle, c'est plutôt la radioactivité du granit qui va amener la chaleur de l'eau. Grâce à ces eaux chaudes, on va retrouver tout un tas d'anciennes activités artisanales. On pense par exemple, si on prend le cas du par, qui signifiait parer le cochon. Parer le cochon, c'était l'épiler. Donc les bouchers étaient à côté de la source du par et mettaient de l'eau chaude sur le cochon pour lui enlever le poil, quoi. On avait cette idée d'usage de l'eau, un usage artisanal de l'eau chaude. Il y avait aussi la laine. Le Chaudzeg, un grand passif lié à la laine, avec des moutons qui paissaient en grande liberté autour du village. Et donc au village même, on transformait la laine et on se servait surtout de l'eau chaude pour dégraisser la laine, la rendre plus blanche que blanche. Et ça a été un artisanat très très prépondérant à Chaudzeg jusqu'au début du XXe. Ici, je retrouve un peu des émotions de quand j'étais enfant, adolescent, on va dire, et aussi des émotions dont mes parents me parlaient, de comment vivait un village, comment les gens se connaissaient, le lien qu'il y avait quand on sortait, quand on pouvait avoir une petite discussion très informelle avec quelqu'un de manière inopinée. Alors ça, c'est vraiment pour le côté vie quotidienne au village. Et sinon, mais moi, j'y trouve un terrain de jeu exceptionnel. On est à une demi-heure de la station de ski alpin. On est à une demi-heure des plus belles pistes de ski de fond. On a des sentiers en raquettes de partout, des sentiers de randonnée aussi partout. Quand on aime les activités de pleine nature, on a un terrain de jeu qui est absolument sublime.
Nous prenons ensuite la direction de Saint-Ursize, au cœur de l'Aubrac. Fred, pêcheur et figure locale, nous a donné rendez-vous à proximité d'une rivière où il a ses habitudes depuis sa plus tendre enfance.
J'adore vivre ici, parce que ici, il y a vraiment des saisons. La neige va tomber en octobre, c'est sûr. Elle va disparaître, il va se mettre à faire froid, elle réapparaîtra vers le mois de décembre. On aura une époque de ski, parce qu'on a des stations de ski. Après ces stations de ski où il y a de la neige, on a de la neige, eh bien, il y aura de nouveau un printemps avec tout doucement, là, qui va laisser apparaître les feuilles. Et puis, malheureusement, on va arriver en été. Je te dis malheureusement, parce que à ce moment-là, on va se mettre à bosser et on n'en profite pas, quoi. Mais par contre, tous les gens qui viennent chez nous, bon, sont contents de ce qu'ils voient. Dès l'âge de 7 ans, je savais que je vivrais ici. Moi, j'ai appris à pêcher, tout simplement parce que le voisin était pêcheur et qu'un beau matin, il m'a emmené, parce qu'il y a une solitude ici. Et la seule façon de contrevenir cette solitude, c'est justement de se faire un ami. Il s'était fait un ami avec moi, et du coup, il m'a appris à pêcher. Il était redoutable à la pêche. Je suis devenu pêcheur. Mais dans un rayon de 50 km, je connaissais absolument toutes les rivières, tous les ruisseaux. Moi, étant donné que j'ai passé toute ma jeunesse ici, j'ai plein d'histoires, des histoires de copains, des histoires des amourettes, des rencontres, voilà.
Une couleur froment, une belle tête expressive, des cornes en forme de lyre, la vache Aubrac est reconnaissable au premier coup d'œil. Installée sur les hauts plateaux de l'Aubrac, la famille Rodier maintient et promeut cette race rustique depuis plusieurs générations. Rencontre avec Pascal Rodier.
Nous avons 100 vaches Aubrac et 100 chèvres alpines. Et à côté, on a un petit atelier porcin avec 30-40 porcs noirs à l'année. L'idée, c'est l'autonomie. Donc, toute l'alimentation des animaux est produite sur la ferme. La totalité des fourrages et la quasi-totalité des céréales. Et ensuite, donc, tous les produits issus des animaux sont transformés sur la ferme et tout est vendu en direct. L'avantage de la race Aubrac, il y en a plusieurs. Donc, c'est une bonne mère. Elle met bas facilement, donc ce qui est très important pour l'agriculteur. Elle a assez de lait pour nourrir son veau sans difficulté. Et son gros atout, encore, c'est qu'elle valorise la mauvaise herbe. C'est une vache qui, par nature, sait qu'elle va devoir beaucoup marcher pour trouver ses kilos d'herbe. Donc, elle va valoriser les territoires un peu plus difficiles que sont l'Aubrac. Donc, c'est pour ça qu'elle s'adapte à tous les types de terroirs, que ce soit les vallées, les plaines, les montagnes. Et c'est pour ça qu'on la retrouve partout en France. Donc, ça, c'est vraiment le côté production pure. Et de l'autre côté, donc il y a le côté consommation. C'est une viande qui est très persillée, avec un grain de viande qui est assez gros, donc qui donne beaucoup de goût. Donc nous, on est habitués à ça, et pour nous, c'est la meilleure, bien sûr. Et maintenant, les chefs la découvrent et la redécouvrent, et la mettent en avant énormément, quoi. Alors nous, sur la ferme, donc on est sur le contrefort sud de l'Aubrac lozérien. La ferme est situé à Noubloux, donc à 950 d'altitude. On a un système de transhumance, ça veut dire qu'on a les vaches qui sont 6 mois dedans et 6 mois dehors. Donc nos vaches passent de novembre à mai dedans, et ensuite on laisse les vaches partir en vacances, en estive, sur le plateau de l'Aubrac, qui oscille entre 1100 et 1400 d'altitude, où là elles prennent vraiment leur quartier d'été, elles redeviennent un peu plus sauvage, j'ai envie de dire, où elles ont vraiment beaucoup d'espace. Pour vous donner un exemple, nos vaches, sur une de nos parcelles, on met 30 couples, ça veut dire 30 vaches avec 30 veaux, sur un espace de 40 hectares. Donc elles ont beaucoup de place, elles ont le temps de profiter de l'air pur et de la bonne herbe variée de l'Aubrac pour se développer tranquillement tout l'été. Et donc ensuite, on va les re-rentrer l'hiver parce qu'elles préfèrent passer l'hiver dedans vu les températures et le climat de l'Aubrac. Le voisin est très 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 important. Il est très important parce qu'on est, en plus, nous, un milieu montagneux, donc éloigné de tout. Donc si tu as un problème, tu es plus vite chez ton voisin que appeler le vétérinaire ou je sais pas qui. On s'entraide énormément. Donc on a souvent du matériel en commun pour limiter les coûts. On peut acheter des animaux en commun, des taureaux aux producteurs en commun, pour diminuer les coûts. Et ensuite, vu qu'on est aussi animé de la même passion, développer le territoire, organiser des événements, développer la race, donc on est tout le temps ensemble, quoi. Nous, on tient à garder les fermes ouvertes. On fait des visites de la ferme gratuites. Il faut ouvrir j'allais dire notre cœur, mais ça, c'est faire parler notre passion et parler de notre métier, donc ça, c'est assez facile, pour lui faire prendre conscience de qu'est-ce qu'une production. Et donc derrière, ça veut dire, ben oui, il n'y a qu'un kilo d'araignée par bœuf, il n'y a qu'un kilo d'anglais par bœuf, on ne peut sortir que 23 côtes par animal, donc il faut adapter sa consommation. Si dans ma réflexion, je ne veux manger que des produits transformés ou que des produits nobles, techniquement, ce n'est pas faisable de produire, entre guillemets, bien, comme les gens l'entendent, avec un élevage extensif. Ce n'est pas faisable. Et c'est ça qu'il faut faire prendre conscience aux gens.
Savez-vous ce qu'est un buron ? Il s'agit d'un habitat emblématique de la région, utilisé par les éleveurs pour fabriquer le fromage durant l'estive dans les montagnes. Quelques passionnés ont réhabilité ces bâtiments, parfois délaissés, pour y créer des auberges, gîtes ou chambres d'hôtes. C'est le cas de Maïté, à la tête du buron de Cap Combatute.
Je suis agricultrice depuis 12 ans, installée dans un GAEC familial avec mon père. Et en fait, on a reconstruit le bureau de Cap Combatut avec l'aide de mon oncle. En 2013, on a commencé les travaux. Et après 2 ans, on a ouvert 2 chambres d'hôtes, un gîte. Et 2 ans plus tard encore, en 2017, on a ouvert le restaurant qui fonctionne comme une auberge où on accueille de mi-avril à mi-novembre les randonneurs, les gens de passage, les locaux, enfin tous ceux qui veulent venir profiter du plateau à la belle saison. Le bureau ne m'appartenait pas, il était à mon oncle. Et le premier porteur de projet, c'est lui. Lui et l'une de ses sœurs qui avaient vraiment envie de reconstruire ce bureau, d'y redonner vie. Seulement, on sait que ce sont de gros investissements. Les années sont passées et leur santé ne leur a pas permis de le refaire en autonomie, en tout cas. Et finalement, c'est peut-être moi avec la jeunesse, en tout cas à ce moment-là, je venais de m'installer déjà avec mon père depuis une paire d'années, qui leur a dit, moi je trouve ça tellement dommage de baisser les bras maintenant, je veux bien me greffer au projet, et si vous m'en laissez la main, je vous promets que je le paierai et que le bureau y vivra. Et en fait, ça s'est passé comme ça, c'était plutôt eux qui avaient envie de reconstruire le bureau, et moi qui me sentais tellement bien en montagne et qui avait peut-être besoin d'un lieu pour exprimer tout ce dont j'avais envie de transmettre, ce que j'avais envie de dire, de raconter, de servir, d'être en contact direct avec les gens qui viennent traverser notre région. Et j'avais besoin d'un lieu. Et puis finalement, ça s'est trouvé comme ça. Et puis ça s'est fait en famille, donc ça s'est fait aussi très naturellement. Quand je vois le temps que je passe à parler aux gens, je me dis que si j'avais été seule avec mes vaches, peut-être j'aurais pas été la même personne. Ensuite, c'était assez important pour moi. Alors peut-être le fait que je sois une femme, peut-être le fait aussi que j'ai grandi sur ce plateau. J'avais besoin que les gens nous comprennent. Et je me suis dit, la meilleure façon d'expliquer quel est notre métier, quelle est la façon dont on travaille, c'est de le raconter directement aux gens. Et avoir un lieu en montagne, ça avait tout son sens pour le faire. Alors le bureau, en plus, il a une situation qui est quand même assez idyllique, c'est-à-dire qu'il se trouve sur la route des lacs. On est entre la cascade du Déroc et le col de Bonnecombe. Donc au départ du village de Nasbinal, on parcourt la D52, on va longer la cascade du Déroc, le lac des Saliens, et on va venir avancer comme ça vers le bureau de Cap Combatut, qui surplombe le lac de Saint-Andéol. C'est un des lacs les plus grands du plateau et c'est celui aussi qui regorge d'histoires, de légendes et qui a vraiment en lui déjà un passé religieux et un passé humain très dense par rapport à l'inoccupation du territoire qu'on peut connaître quand on regarde autour de nous où on ne voit pas un village, pas un réseau, pas un fil. Donc le Puron, il se trouve là. Je suis jamais partie très loin. Donc je ne peux pas dire si je me serais faite ailleurs, mais je crois que tout ce rien qui nous entoure m'aurait beaucoup manqué. J'aime cette solitude qu'on peut avoir sur le plateau, j'aime cette humilité qu'on a face au climat qui est tendre aujourd'hui, mais qui ne l'est pas toujours. Et je crois que d'être confronté comme ça aux éléments, c'est quelque chose qui ne nous est pas permis de vivre partout. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants nés sur l'Aubrac s'accrochent à ce territoire, parce que cette sensation-là, qui est peut-être assez difficile à expliquer, finalement, on l'a dans notre ADN, elle est un peu ancrée en nous, et on est peu à arriver à quitter le pays. Ou alors, on devrait dire l'inverse, on est beaucoup à vouloir y rester.
Portant en lui la mémoire gourmande de son enfance, le chef Cyril Atrazik révèle avec brio les saveurs du terroir de l'Aubrac. Notre vadrouille se termine dans son restaurant gastronomique, situé à Père-en-Aubrac, où la tradition et la créativité se rencontrent harmonieusement.
La maison a été créée en 1928 par mes arrière-grands-parents. Dans les années 60, ma grand-mère décide de déménager, de traverser la Nationale 9 pour bâtir l'endroit où l'on se trouve aujourd'hui. Mes parents reprennent. Nous, avec mon épouse Karine, on revient en 98. On travaille avec mes parents pendant quelques années et on reprend la maison en 2007. J'ai toujours su que je ferais ma vie ici. Je ne savais pas précisément à quel poste. Je ne savais pas si j'allais être maître d'hôtel, si j'allais être sommelier, cuisinier. J'ai toujours été très attaché à ma maison. Le cours de ma vie m'a amené à la cuisine parce que, bien sûr, dans la mesure où je devais reprendre un restaurant, bien sûr, il était évident pour moi de commencer par apprendre la cuisine. C'est devenu ma passion parce que les rencontres, parce que les profils d'école m'ont amené à me passionner pour la cuisine, quoi. Alors ici, on produit une cuisine un peu à l'opposé de la cuisine de marché, en fait. On transforme énormément, on oxyde, on déshydrate, on mature, on fermente. Un peu sur ce que pouvaient faire les personnes qui vivaient ici où les hivers étaient rudes, où très rapidement on pouvait se retrouver un petit peu coincé par la neige, par les intempéries. Donc voilà, donc on a un gros garde-manger. 85% de ce qui rentre dans le restaurant, c'est du travail en direct, que ce soit au niveau des producteurs ou que ce soit au niveau des vignerons. Voilà, on est vraiment très attaché à l'humain, aux visages qui peuvent se retrouver derrière chaque produit. Donc on a un sourcing qui est toujours réalisé avec soin, quoi. Ce qui m'anime surtout, c'est d'avoir le sentiment de produire et de partager avec nos clients une cuisine qui est collée au territoire, en fait. Aujourd'hui, en tout cas en France, il y a très peu de territoires qui sont restés sauvages comme peuvent l'être l'Aubrac, quoi. Voilà. Et finalement, on se rend compte que ça reste quand même des territoires préservés et que ces 30 dernières années, ça n'a pas trop bougé, quoi, en fait. Et ça, c'est sur quoi il faut que nous, on s'attache à laisser pour les personnes qui arriveront après nous, quoi.
Retrouvez le reportage de cette immersion sur le site internet Bobine, www.bobine-magazine.com. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et à le faire savoir sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles tranches de vie.